Donc, on va faire la déclaration qu'on aime faire ici à la vie comblée. Si vous voulez prendre votre Bible dans votre main, si vous n'avez pas une Bible avec vous, je vous invite à prendre la feuille que vous avez reçue à la porte. Et on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est une bonne déclaration, n'est-ce pas? Vous savez que ce qu'on dit avec la bouche en croyant du cœur, ça s'accomplit, n'est-ce pas? Et donc, ce matin, nous allons continuer une petite série qu'on a commencé il y a déjà 3 semaines. Mettez votre vie en ordre. Et on a commencé il y a 3 semaines avec Genèse chapitre 1 et verset 1. Et on va relire encore ce verset qui est vraiment notre texte clé pour la série que nous sommes en train d'étudier. Et on voit en Genèse 1:1, Dieu qui dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la terre était informe et vide. » Soulignez encore une fois ces deux mots, « informe et vide ». Est-ce que quelqu'un peut me rappeler les deux mots hébreux qui signifient « informe et vide » Est-ce que quelqu'un s'en souvient? « Tohu bohu », c'est ça. Donc, et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que le mot « tohu bohu », ça signifie informe dans le sens d'être en désordre, même dans un état de chaos et vide. Et c'est ça qu'on voit. Dieu a créé les cieux et la terre. Et tout de suite après, le prochain verset, nous voyons que la terre était tohu bohu, dans un état de chaos. Il n'y avait pas d'ordre sur la planète Terre. Et comme je dis, il y a plusieurs pensées théologiques. Il y a des personnes qui croient que peut-être en ce verset 1 et 2, il y avait un événement catastrophique. Peut-être même quand Satan a été jeté du ciel lors de la rébellion, que tout d'un coup, il y avait cet état de chaos, de tohu bohu. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas à 100%, mais qu'est-ce qu'on sait? C'est que la terre était informe et vide. Il n'y avait pas d'ordre. Il n'y avait pas de fruit sur la terre. Il n'y avait pas un état de productif, si vous voulez, sur la terre. Mais quand Dieu a parlé, le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus de la terre a agi. N'est-ce pas intéressant que si on continue à lire dans ce verset, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que même si l'Esprit de Dieu était là, présent, au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu n'a pas fait son œuvre avant que Dieu a fait quoi? Parler. Et c'est seulement la combinaison de l'Esprit de Dieu avec la parole de Dieu qui peut transformer le chaos dans un état d'ordre, ou si vous voulez, on pourrait même dire que le chaos, le tohu bohu a été transformé dans un jardin d'Éden, n'est-ce pas? Là où poussaient les arbres, là où il y avait du fruit abondant, là où il y avait du soleil et de la vie et le paradis. Et qu'est-ce que je vois là-dedans? C'est que le même principe peut fonctionner encore dans notre vie aujourd'hui. Si aujourd'hui votre vie est tohu bohu, si vous manquez d'ordre, si vous manquez de fruits, si vous ressentez qu'il y a un vide dans votre cœur ou dans votre vie, j'ai une bonne nouvelle. Si vous êtes prêt à laisser le Saint-Esprit agir en parallèle avec la parole de Dieu, Dieu va transformer votre chaos en jardin d'Éden. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que ça vous intéresse? Et qu'est-ce qu'on a vu? On a parlé de cela il y a 3 semaines, que pour mettre notre vie en ordre, ça prend l'esprit, ça prend la parole, et ça prend aussi les bonnes priorités. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire c'est une priorité, mais il y en a 3 dans le naturel qui sont obligatoires. Si vous voulez rester en vie, il faut faire au moins 3 choses. Premièrement, il faut faire quoi? Respirer. Et si vous arrêtez de respirer pendant plus de... 3 3 minutes, c'est ça, votre cerveau commence à mourir. Puis, on respire et on reste en vie, mais c'est pas assez. On a besoin aussi de faire quoi? Juste pas respirer, mais on a besoin de boire. Et on peut vivre en moyenne de 3 jours sans boire. Et puis, je dis pas que c'est bonne chose d'aller 3 jours sans boire, mais on peut survivre sans boire pendant 3 jours. Mais c'est pas assez juste de respirer et boire. Il faut faire quoi? Il faut manger. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que on peut en moyenne aller 3 semaines sans manger, mais après ça, on crève. Pardonnez le bon français, là, mais... Mais je dis que spirituellement, c'est la même chose. Spirituellement, on a besoin de respirer, on a besoin de boire et on a besoin de manger. Et on a fait la comparaison il y a 3 semaines. Respirer spirituellement, il y a un parallèle avec le fait de pratiquer la présence de Dieu. C'est pas juste une affaire de pratiquer la religion. Je vais à l'église le dimanche, le mercredi, je lis la Bible 10 minutes par jour ou 1 heure par jour, mais je respire la présence de Dieu dans le sens que je suis conscient que Dieu est là. Quand je suis au travail, quand je suis en train de jouer au golf, ou quand je suis dans un canot, ou quand je suis avec les amis, ou je suis à la pizzerie, n'importe où, je suis conscient que Dieu est là. Amen. Et je respire. Et je devrais pas passer plus que 3 minutes sans penser à Dieu. Je devrais être toujours conscient de sa présence. Donc, on a parlé de cela la semaine passée. On a donné même des conseils pratiques, comment pratiquer la présence de Dieu. Et si vous voulez, vous pouvez écouter le message sur l'Internet si vous n'étiez pas là. Mais ce matin, on veut regarder l'autre chose. On va parler de l'importance de boire spirituellement aussi, d'être désaltéré spirituellement. Et on a vu qu'il y a un parallèle aussi où souvent la parole de Dieu est comparée à l'eau, n'est-ce pas? On peut regarder Éphésiens chapitre 5 et on parle d'être purifié par l'eau de la parole de Dieu. Il y a plusieurs versets qui parlent de cela, mais il y a un verset en particulier. On va aujourd'hui parler de la passion pour sa parole, parce que on voit dans sa parole et une façon de boire spirituellement. Psaume 119, verset 131. On va lire ce verset. Et j'aime beaucoup la parole du français courant de ce verset qui dit « Je bois avidement tes paroles. » Qu'est-ce qu'il boit? Il boit les paroles de Dieu. Car j'ai la quoi? J'ai la passion de tes commandements. On va le dire ensemble. « Je bois avidement tes paroles. » Savez-vous que c'est bon de boire de l'eau? Et on a, notre corps physique a besoin de l'eau, mais savez-vous que votre esprit, votre âme a besoin de la parole de Dieu? Et j'ai voulu, même ce matin, c'est bon parce que, en priant, je me suis dit, j'aurais dû demander à l'équipe de louange de chanter comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Mais ils l'ont chanté. Encore, ils étaient conduits par l'esprit, n'est-ce pas bon? Mais on voit cela comme une biche soupire auprès des courants d'eau. On peut avoir cette image d'un chevreuil qui est dans le bois, qui a soif et qui cherche de l'eau parce que il a besoin d'être désaltéré. Et on a besoin d'avoir cette même passion pour l'eau. Il y a même dans le Louis II, ce verset, s'il y a des gens qui ont une version de Louis II, vous pouvez le voir. Mais dans le psaume 119 et le 131e verset, il dit « J'ouvre la bouche et je soupire. » Dans la Bible anglaise, c'est marqué « I open my mouth and I pant. » Je soupire. Et le mot « pant » en anglais, c'est le même mot qu'on utilise, par exemple, pour un chien qui est en train de faire « C'est comme... Avez-vous déjà vu un chien qui a vraiment soif? Hein? Là, il y a... Moi, c'est sûr que il y a certains endroits aux États-Unis où l'anglais, il y a toutes sortes de dialectes. Hein, dans le sud, il y a une expression des fois que les personnes utilisent quand ils ont vraiment soif. Ils disent « j'ai le soif d'un gros chien. I'm thirsty as a big dog. » Mais ça c'est pas vraiment un bon anglais, hein. Mais ils disent ça, j'ai le soif d'un gros chien. C'est comme on peut avoir cette image d'un gros chien avec la langue qui qui est là. Avec, vous voyez l'image dont je parle, n'est-ce pas? Et je pense qu'on devrait être comme ça pour la parole de Dieu. Quand on pense à la parole de Dieu, on devrait être comme... Regardez quelqu'un a fait... Ça, c'est juste pour vous réveiller. Et puis, offrez un tic-tac à quelqu'un qui a la mauvaise haleine. Bon, peut-être pas, peut-être pas. Je voulais juste être sûr que vous êtes bien réveillés ce matin. Mais je bois avidement. Je soupire pour la... j'ai soif de la parole de Dieu. Je crois qu'on a besoin d'avoir cette attitude. Et je crois qu'il y a un danger dans la vie chrétienne d'être tellement, on pourrait dire, passif au niveau de la parole de Dieu. On peut arriver à une place dans notre cheminement spirituel où, je connais ce verset, je connais ce livre de la Bible, je l'ai déjà lu maintes fois, je l'ai déjà entendu une centaine de prédications sur ce sujet. Mais non, je crois qu'on devrait avoir cette attitude que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est esprit, la parole de Dieu a le pouvoir de me transformer, et même si j'ai lu quelque chose 100 fois, la prochaine fois, je peux quand même avoir quelque chose que j'ai jamais eu avant. Amen? Moi, j'ai quelque chose que j'aime faire quand je lis la parole et quand j'étudie les chapitres de la Bible, par exemple. J'aime faire les études, les chapitres, et un de mes exercices que je fais, je vais lire 5 fois de fil le même chapitre. Et c'est incroyable! La première fois, je peux encercler les mots et c'est comme Dieu qui me parle. Mais quand la deuxième fois je le lis, il y a une autre chose qui saute de la page comme si je l'ai jamais vu auparavant. La troisième fois que je le lis, incroyable, il y a encore plus. Et on peut faire ça 5 fois, 6 fois, 7 fois, je vous assure que la parole de Dieu est vivante. Et c'est tellement riche, on ne devrait jamais s'ennuyer de la parole de Dieu. Amen? Donc, on devrait avoir soif, le soif d'un gros chien pour la parole de Dieu. Amen? Comme une biche, c'est un peu plus joli comme image. Une biche qui soupire auprès des courants d'eau. Et ça, c'est correct. Si vous aimeriez mieux être un chevreuil, c'est correct aussi. Mais regardons juste quelques versets pour préparer notre cœur pour, si vous voulez, la viande du message ce matin. On va lire quelques versets de la parole. Ésaïe 55, verset 10, qui dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir cette attitude d'avoir soif de la parole de Dieu? C'est parce que la parole de Dieu est capable de transformer notre vie. C'est la parole de Dieu qui peut exécuter la volonté de Dieu pour notre vie. Dieu veut des bonnes choses pour moi. Dieu veut des bonnes choses pour vous, mais c'est sa parole qui a le pouvoir d'exécuter sa volonté dans votre vie. Et si la parole de Dieu n'est pas activée dans votre vie, les promesses de Dieu ne seront pas activées non plus. La puissance de Dieu ne sera pas activée. On a parlé de ça il y a quelques semaines, on parlait de comment relâcher la puissance de la parole et on a vu qu'il faut mélanger la foi avec ce qu'on entend, n'est-ce pas? Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est quoi? Vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, elle est vivante. Regardons 2 Timothée 3, 16. Toute écriture, on va la dire ensemble, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc encore, on devrait avoir cette attitude, je soupire comme une biche qui soupire auprès des courants d'eau, je soupire pour la parole de Dieu, je bois avidement la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est inspirée de Dieu. C'est le souffle de Dieu. C'est Dieu qui a soufflé. Dieu qui a inspiré les hommes à écrire ce livre. Ou ces livres pluriels dans le fond. 2 Pierre 1:20, regardons ceci. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Combien de vous, vous avez entendu, même dernièrement, les gens disent, mais on ne peut pas se fier à la Bible, c'est les hommes qui l'ont écrit. Est-ce que vous avez entendu cela? Est-ce que c'est vrai que les hommes qui l'ont écrit? Oui, les hommes ont écrit la Bible. Mais ces hommes ont écrit la Bible en étant poussés par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas pris l'initiative eux-mêmes. Ils n'ont pas dit, ah ben là, je vais juste écrire un livre que les gens vont reconnaître comme étant les Écritures. Non, ils étaient poussés par l'Esprit Saint et ils sont devenus le porte-parole de Dieu. C'est pourquoi, quand je lis qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à l'Église à Corinthe, je peux voir qu'il y a des choses qui s'appliquent à ma vie aujourd'hui. Et c'est Dieu qui me parle. Oui, c'est Paul qui parle, mais de la part de Dieu. Amen? Et il faut s'approcher de la Bible avec cette attitude. C'est pas juste un livre écrit sur parchemin ou sur papier avec de l'encre. Ça, c'est un livre qui contient la parole qui a été inspirée d'en haut. C'est un livre inspiré de Dieu lui-même et la parole de Dieu est pour toujours établie dans les cieux. Amen. Elle est vivante. Elle est efficace. Et c'est pourquoi j'ai soif. Je veux le recevoir parce qu'elle peut transformer ma vie. Amen. Alléluia. Regardons. On va continuer. Parlant de psaume 119, et je vous encourage à lire et relire et méditer tout le psaume 119 parce que c'est merveilleux. Ça parle beaucoup de la puissance de la parole et des caractéristiques de la parole de Dieu. Mais moi, j'ai juste choisi une portion de psaume 119 à partir de verset 89 jusqu'à 97 et on va étudier cela un peu parce qu'il y a des grandes lignes dans ces passages qui sont importants pour nous aujourd'hui. On parle d'avoir une passion de la parole, d'avoir soif de la parole et de boire la parole de Dieu. Je ne peux pas vivre dans le naturel sans boire de l'eau et je ne peux pas vivre spirituellement sans boire la parole de Dieu. Amen. On voit que le verset que nous allons lire est inspiré de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Et si on peut regarder le psaume 119, 89 jusqu'à 97, plusieurs choses qu'on va voir. Première chose qu'on voit, c'est que la parole est éternelle et elle est fiable. N'est-ce pas bon de savoir que la parole de Dieu est éternelle? On a vu cela l'autre jour. Vos problèmes sont partagés, n'est-ce pas? Les problèmes que vous avez dans votre vie sont temporaires. Mais la parole de Dieu est éternelle. Les circonstances que vous vivez aujourd'hui sont temporaires, mais la parole de Dieu est éternelle. Et même on voit que Dieu a donné des promesses par lesquelles souvent on peut même changer les circonstances de la vie. On peut changer qu'est-ce qui se passe. Il y a certaines circonstances qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer la volonté d'une autre personne. Mais il y a des choses dans notre vie qu'on peut changer avec la parole de Dieu. Et il faut avoir la sagesse de savoir et de pouvoir distinguer les moments dans la vie où on peut appliquer la parole pour effectuer un changement ou les moments dans la vie où on a besoin de faire confiance au Seigneur pour sa grâce, de passer à travers une certaine situation ou de supporter certaines personnes dans notre entourage, n'est-ce pas? On peut prendre autorité avec la parole de Dieu et chasser les démons, mais je peux pas chasser les personnes de ma vie. Je peux prendre autorité sur les esprits qui influencent les gens dans mon entourage, mais je peux pas prendre autorité sur leur esprit. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il a subi des persécutions et certaines choses, mais il y avait d'autres moments où on voit il a pris autorité sur les esprits qui influençaient les gens. Donc, il y a quand même une sagesse qui est importante là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que la parole de Dieu, elle est éternelle et elle est fiable. La parole est capable de changer tout ce que Dieu a promis qu'il va changer. Amen. Regardons qu'est-ce que le verset 89 dit. Éternel, ta parole est fondée dans le ciel pour toujours. Et ta fidélité demeure d'âge en âge. Tu as fondé la terre et elle subsiste. Mais même là, vous savez quoi? La terre subsiste, mais un jour la terre va disparaître. Les cieux que nous voyons aujourd'hui vont disparaître, mais Jésus a dit que la parole de Dieu va subsister pour éternité, n'est-ce pas? Même le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu va rester ferme, éternelle et fiable. C'est pourquoi j'aimerais mieux avoir ma foi dans la parole de Dieu que de mettre ma foi dans mes circonstances ou mes problèmes. Mes problèmes sont temporaires, mais la parole de Dieu est éternelle.
Amen.
Alléluia. Une autre chose qu'on voit dans le psaume 119, toutes choses subsistent selon la parole. Verset 91 dit, selon tes ordres, tout subsiste aujourd'hui. Ça me fait penser à Hébreux chapitre 1. Lisez Hébreux chapitre 1 plus tard cette semaine et vous allez voir que l'univers entier est gardé en place par la puissance de la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons autour de nous subsiste grâce à la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux que vous receviez aujourd'hui? C'est la révélation du fait qu'il n'y a rien de plus fiable, de plus durable que la parole de Dieu.
Amen?
Il n'y a rien. Et tout subsiste par la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu. Quand Dieu parle, c'est pour toujours établi dans les cieux. C'est éternel. Sa parole est digne de confiance. Amen. Selon tes ordres, tout subsiste aujourd'hui et tout dans l'univers se tient à ton service. Une autre chose qu'on voit dans ce psaume, c'est que seulement la parole peut nous délivrer de notre misère. Avez-vous vécu des situations misérables dans le passé? Moi, j'ai eu de la misère une fois dans ma vie, non. Vous avez sûrement eu de la misère une fois dans la vie, mais voici la bonne nouvelle. Si je n'avais pas fait de ta loi ou ta parole mes délices, j'aurais depuis longtemps péri dans ma misère. Ça, c'est un bon verset, n'est-ce pas? Combien de vous, vous pouvez compatir et comprendre ce verset? Si ce n'était pas pour la parole de Dieu, j'aurais il y a longtemps péri dans ma misère. Mais c'est la parole de Dieu qui a la capacité de nous délivrer de notre misère. Vous êtes misérable aujourd'hui? Bonne nouvelle. La parole de Dieu peut vous délivrer. La parole éternelle de Dieu, la parole par laquelle toutes choses subsistent, peut vous délivrer de votre misère. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia. Combien de vous, vous êtes sûrs de cela? Est-ce que vous êtes assez sûr de faire la prochaine chose? Amen. De savoir que sa parole, c'est la chose, la seule et unique chose qui peut vous donner la vie. 93e verset dit, « Jamais je n'oublierai tes ordonnances, car c'est par elles que tu me vivifies. C'est par elles que tu me donnes la vie. » Savez-vous que si vous avez besoin de la vie, et je ne parle pas juste de l'existence, je parle de la vie. Jésus dit en Jean 10:10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait même avec abondance. Le mot vie en grec là, c'est zoé. Et ça parle de le genre de vie que seulement Dieu peut donner. C'est pas juste une existence. C'est une chose d'exister, c'est une autre chose de vivre, n'est-ce pas? Moi, je veux vivre pleinement. Je veux mener une vie abondante. Et c'est seulement la parole de Dieu qui peut me vivifier, qui peut me donner la vie dont j'ai besoin. C'est-à-dire que si vous, en tant que chrétien, votre vie peut être comme la planète Terre, quand Dieu a créé les cieux et la terre, mais la terre a été tohu bohu. l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre, mais il y avait encore de la confusion, il y avait encore du chaos, il n'y a rien qui bougeait, qui poussait, il n'y avait pas de plantes, pas de fruits, et ça se peut que votre vie chrétienne est comme ça aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est en vous-même, vous êtes né de nouveau, mais l'Esprit de Dieu n'est pas en train d'agir dans votre vie pour produire le fruit que vous voulez produire dans votre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas donné place à la parole de Dieu, et c'est seulement la parole qui peut vous vivifier. L'Esprit de Dieu est là, mais c'est seulement quand la parole de Dieu est activée que l'Esprit de Dieu agit. Amen? Donc, si vous voulez transformer le chaos en jardin d'Éden, il faut laisser la parole vous vivifier. Il faut donner la chance à la parole de vous donner la vie. Amen? Moi, je sais qu'il y a certaines situations ou certains domaines de ma vie où j'ai de la vie et la vie de Dieu agit. Mais il y a d'autres domaines où je n'ai pas encore activé la parole de Dieu dans ce domaine et je manque la vie. Est-ce que vous me suivez aujourd'hui? Savez-vous que c'est possible pour quelqu'un d'avoir la victoire dans un domaine de leur vie, avoir la défaite dans un autre domaine de leur vie? Et des fois, c'est juste une question de ne pas avoir donné la chance à la parole de Dieu de vivifier cette partie ou cette domaine de leur vie. Quelqu'un peut avoir un mariage qui est numéro un. Ils ont laissé la parole de Dieu régner. Ils ont suivi les instructions. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Et cette personne est en train de vraiment vivre un mariage qui est épanoui et qui est florissant et qui est merveilleux et qui est beau. Mais peut-être dans le domaine de leurs finances, c'est du chaos. Et tout est... Il n'y a rien qui marche. Peut-être ils n'ont pas encore activé la parole de Dieu dans cette partie de leur vie. Ou peut-être c'est vice-versa. Quelqu'un peut, bon, ça va bien, ils prospèrent, ça va bien au travail, et le Seigneur pourvoit leurs besoins, mais ils ont de la misère dans leur mariage. Et les choses vont pas bien à la maison. C'est parce que peut-être ils n'ont pas donné la chance à la parole de vivifier leur mariage. Est-ce que vous me suivez ce matin? Faites le bilan de votre vie. Sondez votre cœur. Demandez à Dieu, « Seigneur, est-ce qu'il y a des domaines de ma vie où je n'ai pas encore donné la chance à votre parole de me vivifier? Est-ce qu'il y a encore les domaines de ma vie où je ne vis pas pleinement selon ta volonté? Seigneur, si c'est le cas, aide-moi à donner place à ta parole. » Amen. Alléluia. Donc, c'est seulement sa parole qui peut nous vivifier et nous délivrer de notre misère. Donc, le OMC aujourd'hui, oui, mais comment, si vous voulez regarder la dernière page de vos notes, on va regarder juste rapidement aujourd'hui trois points que nous voyons dans le même psaume 119, si on continue. On va voir comment on peut appliquer cette parole dans notre vie. Verset 94 dit, « Je suis à toi, viens me sauver, car je m'applique à suivre tes préceptes. » N'est-ce pas intéressant? Le psalmiste est en train de dire, « Je suis à toi, viens me sauver. » Avez-vous besoin d'être sauvé des fois? Je ne parle pas de votre salut éternel. Ça devrait être une chose qui est réglée. Dès que vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, vous êtes sauvé. Vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais des fois, on a besoin d'être sauvé dans notre mariage, dans nos finances, dans notre santé, dans nos émotions. N'est-ce pas vrai? Et viens me sauver, mais qu'est-ce qu'il dit prochainement? Je m'applique à suivre tes préceptes. Si vous voulez être sauvé dans tous les domaines de votre vie, il faut s'appliquer à suivre la parole de Dieu. Ça ne va pas se passer automatiquement. Il faut s'appliquer. Il faut que je prenne une décision de donner place à la parole vivante de Dieu de me transformer et de me délivrer de ma misère. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Trois points principaux. Numéro un, restez attentif à sa parole malgré les attaques de l'ennemi, ou on peut dire malgré les circonstances de la vie, ou malgré les problèmes. Verset 95 dit, « Des méchants préparent ma perte. Moi, je reste attentif à tes édits. » Savez-vous que des fois dans la vie, on peut vivre des expériences difficiles. Des fois, il y a même des ennemis littéraux qui veulent nous détruire. Il y a des personnes qui planifient notre destruction. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se laisse distraire ou décourager par cela? Oh là là, Seigneur, j'ai peur. Ou est-ce qu'on reste avec nos yeux fixés sur la parole de Dieu? David avait plein d'occasions où les gens ont planifié sa mort. Les gens ont planifié, comploté sa destruction. Mais il avait un choix à faire de garder ses yeux fixés sur la parole de Dieu. Amen? Vous dites, oh, mais c'était facile pour lui. Ah oui? Ou on parle de Paul et Silas. Ils sont en prison vers l'heure de minuit et ils ont été battus et le dos qui saigne probablement. Ils sont liés à l'intérieur de la prison. Ils avaient un choix à faire. Ils pourraient se plaindre ou garder les yeux fixés sur l'Éternel. Donc, ils ont pris une décision de louer Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique, n'est-ce pas? Et c'est cette parole qui est l'Esprit de Dieu qui a agi en conséquence, qui a délivré Paul et Silas de leur misère, n'est-ce pas? Donc, restez attentifs. Proverbe 4, 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et c'est la santé pour tout leur corps. C'est un principe de la parole de Dieu qu'on voit dans l'Ancien Testament, comme on voit dans le Nouveau Testament. Quand vous avez un problème, quand vous êtes attaqué par l'ennemi, quand vous êtes mordu par le serpent, qu'est-ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël quand ils étaient mordus par les serpents? Regardez! Parce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'il y avait dans le désert? Un serpent des reins qui a été créé selon les instructions de Dieu, qui représentait Jésus. Parce que Jésus a dit en Jean 3, de la même façon que le serpent a été élevé dans le désert, moi aussi le Fils de l'homme doit être élevé pour que tous les hommes puissent venir à lui. Je paraphrase. Mais on voit que dans le désert, le serpent des reins représentait Jésus qui est la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que Dieu disait? Si tu es mordu par le serpent et tu es sur le point de mourir, qu'est-ce qu'on fait? On reste attentif, on regarde le serpent des reins. On fixe les yeux sur la parole de Dieu et on vit. Et ça, c'est pas forcément évident. Hein? Les serpents qui sont là autour de tes pieds, ou regarde le poteau. Ouais, mais il y a des serpents qui s'approchent et c'est peut-être pas évident, mais Dieu dit, regarde, fixe tes yeux sur la parole. Et c'est ça qu'on a besoin d'apprendre à faire. Les choses commencent à venir et la vie nous morde, ou l'ennemi nous morde, ou les circonstances nous mordent. Gardons les yeux sur la parole de Dieu. Amen? Restez attentifs à la parole. Numéro 2, mettez votre confiance dans la parole. J'ai constaté que les choses parfaites ont toutes leurs limites. Illimitées, et la portée de ton commandement ou de ta parole. Là, on voit le psalmiste en train de dire que j'ai fait le bilan, j'ai regardé toutes les choses dans ce monde et j'ai vu que toutes les choses, même les choses que le monde dit que c'est parfait, oh ça c'est la solution parfaite, que toutes ces choses ont leur limite. Mais ta parole est illimitée. Et je pense qu'on a besoin d'arriver en tant que chrétien à cette place où on a vraiment pour vrai, plus de confiance dans la parole de Dieu que dans n'importe quelle autre chose. Amen. Il y a un verset que j'aime beaucoup en Ésaïe 31 qui dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Avez-vous, c'est où votre confiance aujourd'hui? Dans les chevaux? Dans les chars? Dans les cavaliers? Vous dites, bon, non, c'est ridicule. Mais si on pourrait faire ça en 2008, avez-vous votre confiance dans votre rire? Dans votre emploi? dans votre chèque du gouvernement, dans votre je ne sais pas quoi, votre force physique, vos biens naturels, ou avez-vous vraiment confiance en Dieu? Amen. Dieu n'est pas contre l'idée que vous ayez un bon emploi, que vous ayez des biens, que vous avez un bon médecin, par exemple. Ça, c'est des bonnes choses. Mais faisons attention, mettons notre confiance en Dieu, même avant de mettre notre confiance dans ces autres choses. Je remercie le Seigneur pour les médecins, mais des fois, les médecins se trompent. Ma mère avait un problème. Elle avait mal dans l'épaule et dans la poitrine. Elle avait des douleurs et ça persistait et ça persistait. Et le médecin lui donnait les médicaments pour relaxer les muscles. Et puis, mais ça continuait et elle est retournée voir le médecin et ils ont donné une autre pilule qui est très forte pour relaxer les muscles. Bon, si jamais tu as vraiment mal, prends ça, ça va régler le problème. Là, elle a eu une crise, elle a mal, et elle a pris la pilule, elle a commencé à la prendre, mais quelque chose dans son cœur disait, prends pas cette pilule. Prends pas ça. Elle se rend chez le médecin, et le médecin examine ma mère, et il voit que le sac autour de son cœur est rempli de liquide, et que son cœur à peine est en train de battre. Elle était toute grise. Et puis, elle a dit, mais j'avais ce médicament, j'étais pour le prendre. Ils ont dit, une chance que tu l'as pas pris parce que tu serais mort. Parce que c'est quoi le cœur, c'est quoi? C'est un muscle. Donc, on va relaxer bien comme pour le muscle et... Mais heureusement, elle a eu assez de confiance dans... Et encore, est-ce que je suis en train de dire de ne pas suivre les consignes du médecin? Jamais. Donc, quittez pas cette église en disant, le pasteur a dit de ne pas suivre les consignes du médecin. C'est pas qu'est-ce que je suis en train de dire... Mais je suis en train de dire qu'il faut avoir autant de confiance dans le Seigneur que nous avons dans les médecins. Amen? Il y a quelque chose à apprendre. Amen? Donc, on continue. Numéro 3, troisième chose. Apprenez à méditer constamment la parole de Dieu. Verset 97 dit, « Oh, que j'aime ta loi. Je la médite tout le jour. » Tout le monde dit « tout le jour ». Ça, c'est long. Comment est-ce qu'on peut méditer la parole tous les jours? J'étais, peut-être pas, vous ne devrez pas le dire parce que quelqu'un peut écouter, mais sur l'Internet, mais on a les enfants qui jouent au sport, et donc, dernièrement, on avait beaucoup d'événements de sport à aller regarder les matchs de baseball, les matchs de soccer et tout, mais à un moment donné, c'est le final pour un match de baseball, et puis, il y a des parents qui disent, OK, il faisait des farces. Tous les parents de Drummondville ont fait la méditation. Et tout le monde. Donc, dans l'estrade, il y a 5, 6, 8 personnes qui font ça. C'est juste pour faire une farce. Mais moi, je me suis dit, écoute, ils sont pas gênés de faire ça. Et les gens pensent que ça, c'est la méditation. Ça, c'est pas la méditation. Selon la Bible. Vous êtes d'accord? Le mot méditer, selon la Bible, cela veut dire de murmurer. De dire la même chose. Et comme une vache va manger et remanger et remanger, je sais que c'est un peu dégueulasse de parler de ça juste avant le dîner, mais écoute. Mais c'est ça, la méditation. Et savez-vous que vous êtes capable de méditer la parole de Dieu sans vous promener en ville comme ça avec les doigts ensemble? Je suis en train de méditer. Non, je fais mes affaires, je travaille comme faut, je fais l'épicerie, je conduis l'auto, mais je suis quand même en train de réfléchir et de penser, et à l'intérieur de moi-même, de dire la même chose que Dieu dit. Je médite tout le jour. La journée longue, je fais la méditation. Amen? Combien de vous savez c'est quoi être inquiet? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu l'expérience de s'inquiéter? Hein? Je vais juste vous poser une question. Des fois, votre inquiétude est si grave que tout le monde dans votre entourage, ils savent que vous êtes inquiet. Vous êtes d'accord? Mais est-ce que ça vous est arrivé d'avoir au moins une fois dans la vie dans l'intérieur de votre cœur, vous étiez inquiet, mais personne autour de vous était au courant. Parce que là, vous souriez, vous parliez, tout était beau, c'était positif, mais ça mangeait, hein. Il y a des papillons à l'estomac, ça va pas bien, et vous êtes inquiet, vous avez la peur, la crainte. Vous savez de quoi je parle? Je veux juste vous donner un truc. Savez-vous que la méditation, c'est l'inquiétude tordue? La méditation, c'est l'inquiétude tordue. Quelqu'un qui est inquiet, qu'est-ce qu'il fait? Il pense et il repense et dans son cœur, il dit, oh, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Ouf, ça se peut que je vais perdre mon travail. Ou si je perds mon travail, je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour payer les factures. Et si je paye pas les factures, ouf. Ou quelqu'un a des mal dans son corps et ouf, ça se peut que, ouf, peut-être c'est le cancer qui commence dans mon corps physique, je sais pas. Et mon père est décédé de ça, ma mère est décédée de ça, et mon grand-père. Et puis une personne peut avoir des pensées comme ça qui roulent et il parle à lui-même, mais personne autour de lui est au courant. Vous savez? Est-ce que vous me suivez ce matin? L'inquiétude et la méditation sont les cousins. Vous avez besoin d'apprendre à, si on peut le dire, inquiéter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire cela? Non. C'est-à-dire, en anglais, on dirait « worry the word ». Comment est-ce qu'on pourrait traduire cela? Non, mais c'est-à-dire, de la même façon que vous vous inquiétez, préoccupez-vous avec la parole de Dieu. Mais de la même façon, quelqu'un qui est vraiment inquiet, c'est constant. Quand il est dans l'auto, oh, qu'est-ce qui va se passer? Quand il était au magasin, oh, qu'est-ce qui va se passer? Hein, quand il est en train de jouer avec un jeu de société avec quelqu'un, dans le fond, il est en train de penser, « Oh, comment est-ce que je vais faire ce mois-ci? Faites la même chose avec la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Oh, que selon Philippiens 4, 19, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Alléluia. Je suis dans l'auto. Merci, Seigneur. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Alléluia. Je suis en train de jouer un jeu de société, mais dans le fond, dans mon cœur, je pense et je médite. Oh, merci, Seigneur, que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. De la même façon que vous vous inquiétez, vous méditez la parole de Dieu. Et comme ça, vous pouvez le faire jour et nuit sans faire Vous méditez la parole de Dieu. Amen. Josué 1:8. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est pas marqué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton étagère. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu mettras de l'ordre dans votre vie. C'est alors que le chaos de votre vie, le tohu-bohu, va se transformer dans un jardin d'Éden, n'est-ce pas? Alléluia. 2 Corinthiens 3:18, nous voyons quelque chose d'intéressant. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un quoi? Un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est intéressant parce qu'ici nous voyons la parole de Dieu comparée à un miroir. On voit la même chose en Jacques chapitre 1 aussi. Vous vous rappelez de Jacques chapitre 1 à partir de verset 19 et on parle de l'importance d'être quelqu'un qui met la parole en pratique et pas un auditeur oublieux, parce qu'il dit que quelqu'un qui entend la parole, qui la met pas en pratique, c'est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir, il s'en va et il oublie aussitôt qu'est-ce qu'il avait l'air. Tandis que là, la Bible dit qu'on devrait méditer jour et nuit la parole de Dieu. Comme on peut être inquiet, on s'inquiète pour des choses, on médite la parole de la même façon. Jour et nuit, constamment. Comment est-ce qu'on peut faire cela? C'est comme un miroir. Je devrais jamais quitter la maison sans se regarder. Vous devrez jamais quitter la maison. Nous devrions jamais quitter la maison sans se regarder dans le miroir. Vous êtes d'accord? C'est juste plus sage de ne pas le faire. Parce qu'il est fort probable que mes cheveux vont être pas mal dérangés. On ne sait pas, hein? Il faut être sûr, est-ce que je me suis bien rasé? Est-ce qu'il y a encore de spaghettis sur le visage, de je ne sais pas quoi? Mais quelqu'un qui est conscient de son apparence physique, il va développer l'habitude de se regarder dans un miroir, pas juste une fois par jour, mais régulièrement pendant la journée, n'est-ce pas? Avant de quitter la maison, on se regarde dans le miroir. Mais si tu vas au restaurant ou si tu vas au magasin et si jamais tu vas à la chambre de bain, souvent les personnes juste à l'occasion vont se checker, n'est-ce pas? Être sûr et certaine que tu n'es pas un désordre comme ça. Et ça m'est déjà arrivé, hein, d'avoir les vêtements qui sont croches. Et quand ma femme n'est pas là, c'est vraiment important que je regarde. Parce que des fois, hein, il y a des choses qui peuvent arriver. Il faut regarder, il faut checker. Je m'en souviens une fois d'une amie à nous, à Tania et moi. Il y a des personnes qui sont arrivées à la porte. Elle était dans la chambre de bain. Donc, elle s'est dépêchée pour aller répondre à la porte et ouvrir la porte. Mais elle s'est vraiment dépêchée, elle n'a pas pris le temps de se regarder. Et puis, elle ouvre la porte et heureusement, c'était des personnes assez proches à elle aussi, qui la connaissaient, mais la personne a commencé à rire. Elle dit, « Pourquoi est-ce que tu ris? » Et puis, elle a dit, « Regarde! » Et donc, et en arrière d'elle, elle avait le bout du papier de toilette. Et ça allait jusqu'à la chambre de bain. On a amené ça avec elle. Si elle aurait pris juste une seconde pour regarder dans le miroir ou checker, elle n'aurait pas eu cette expérience. Le chaos aurait été transformé, n'est-ce pas? Elle aurait pu mettre de l'ordre dans sa vie. Et c'est la même chose spirituellement. On a besoin de se regarder dans le miroir de la parole de Dieu régulièrement. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se regarde dans le miroir de la parole de Dieu? Parce que c'est dans la parole qu'on voit qui nous sommes et qu'est-ce qu'on a l'air dans l'esprit, n'est-ce pas? C'est exemple, si vous avez votre Bible, vous pouvez aller voir 2 Corinthiens chapitre 5. Juste un exemple que presque tout le monde connaît ce verset. Et si je pense à la parole comme un miroir, c'est-à-dire que je peux me voir dans le miroir. 2 Corinthiens 5, 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais là, c'est un miroir. Donc, il y a trois choses que je dois faire quand j'utilise le miroir. Première chose, regardez-vous dans le miroir. Regardez-vous. Regardez pas l'autre dans le miroir, mais regardez-vous. Tout le monde dit, « Je me vois dans le miroir. » Ça, c'est vous, ce verset parle de vous. Donc, deuxième chose, on déclare qu'est-ce qu'on voit dans le miroir. Et vous savez que vous le faites des fois. On se regarde dans le miroir, on dit, ça fait dur ce matin. Ou il y a peut-être des personnes un peu orgueilleuses qui disent, ouf, vraiment beau un matin, hein? Non, on ne sait pas. Mais spirituellement, vous devrez être plus comme la deuxième personne, hein? Wow! Regarde qui je suis en Jésus-Christ. Je suis vraiment quelqu'un. Hey, je regarde bien aujourd'hui. Dans le naturel, peut-être, l'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, n'est-ce pas? Je peux me voir et dire, wow! Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Je me vois et je déclare ce que je dis. Et puis, qu'est-ce que je fais? J'agis en conséquence. J'agis en conséquence. Quelqu'un qui se regarde dans le miroir et aime qu'est-ce qu'il voit, il va se porter avec plus d'assurance, n'est-ce pas? Oh, mais je regarde bien, j'ai rien à craindre, j'ai pas honte de mon apparence, voilà. Mais spirituellement, ça doit être comme ça. Je me regarde, je déclare qu'est-ce que j'ai l'air et qui je suis, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire, et j'agis en conséquence. Je suis une nouvelle création. Au lieu de me promener comme ça, comme quelqu'un qui est avec un esprit de culpabilité et la honte et la peur et la crainte et « Oh, mais moi, j'ai fait des mauvaises choses dans ma vie. Oh, je ne suis pas vraiment une bonne personne. » On dit « Non, selon le miroir, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. » et j'agis en conséquence. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Woo! C'est qui je suis? Je me vois, je déclare et j'agis. Amen. Donc, et juste pour terminer, plusieurs petites choses pratiques. Je ne vais pas prendre le temps de tout expliquer cela. Mais quand on parle d'agir en conséquence ou de mettre la parole de Dieu en pratique, à chaque fois que Dieu nous parle à travers un verset de la Bible, on devrait se poser quelques questions. Quel genre de questions? Exemple, est-ce qu'il y a une promesse à réclamer dans ce que je viens de lire? Si Dieu a promis de pourvoir mes besoins, je devrais réclamer cette promesse. Si Dieu a promis de guérir mon cœur, je devrais réclamer cette promesse. Si Dieu a promis d'envoyer les ouvriers sur le chemin de ceux pour qui je prie, je devrais le faire. Amen. Est-ce qu'il y a un péché à renoncer ou à confesser? Peut-être vous allez lire quelque chose dans la parole de Dieu vivante et ça va vous convaincre. Vous allez dire, Seigneur, ma vie n'est pas en ordre. Il y a encore du chaos dans ce domaine de ma vie. Donc, au nom de Jésus, je confesse mon péché et je me repens. Amen. Est-ce qu'il y a une prière à prier? Quand on lit Éphésiens chapitre 1, 14 à 21, exemple, ou Éphésiens 3 ou Colossiens 1, 9, il y a des prières qu'on peut prier pour soi-même ou pour les autres et on devrait le faire. Pas juste le lire, mais le faire. Amen. Est-ce qu'il y a un commandement à obéir? Marie, aimez vos femmes. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Est-ce que ça, c'est un commandement, pas une suggestion en passant, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un comportement à changer? Si je me vois dans le miroir et je me suis rendu compte du fait que... qu'est-ce que les autres voient ne ressemble pas à qu'est-ce que je vois dans le miroir. Il y a quelque chose à changer, n'est-ce pas? Il faut que j'agisse en conséquence. Et c'est à adopter. Souvent, qu'est-ce qu'on voit dans la Bible, c'est pas juste des commandements, fais ceci, fais pas cela, mais Dieu nous montre comment penser, quelle attitude avoir. Est-ce que j'ai une attitude d'un victime ou quelqu'un qui est plus que vainqueur? Est-ce que j'ai une attitude de quelqu'un qui est positive, qui est toujours joyeux, ou est-ce que j'ai l'attitude de quelqu'un qui est toujours défaite et déprimé? Quelle attitude? Quel comportement? Examinez ces choses. Méditez ces choses. Regardez-vous. Déclarez qu'est-ce que vous voyez. Et puis, agissez en conséquence. Et je vous assure que ça va vous vivifier. Ça va mettre la vie dans votre vie. Ça va mettre de l'ordre, ça va remplacer le chaos avec de l'ordre. Là où il y avait du tohu-bohu, vous allez avoir un jardin d'Éden. Amen. Donc on va se lever debout, on va prier ce matin. Alléluia. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Mais là, comme je dis, aujourd'hui je vous montre le menu. C'est à vous maintenant d'aller déguster toute la semaine. Si vous pensez que venir écouter le pasteur parler de ça, que ça va transformer votre vie, vous avez tort. Mais si vous prenez qu'est-ce qu'on vient de voir et vous mettez ça en pratique demain matin, mardi, mercredi, jeudi, à tous les jours, vous développez l'habitude de vous regarder dans le miroir de la parole, de déclarer qu'est-ce que vous voyez et puis d'agir en conséquence, ça va transformer votre vie. Alléluia. Père, merci ce matin pour ton Esprit Saint. Et merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, merci, Seigneur, que tu ne nous as pas laissés ici comme des orphelins, mais tu nous as donné, Seigneur, le Consolateur, le Saint-Esprit. Mais aussi, tu nous as donné ta parole, les Écritures, Seigneur, qui sont inspirées de toi. Toute Écriture est inspirée de toi et utile. Et Seigneur, avec révérence et avec reconnaissance, on veut recevoir avec douceur, avec humilité, la parole de Dieu plantée dans notre cœur, qui est capable de sauver notre âme. Seigneur, comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Seigneur, on a soif de ta parole. On a soif de ta présence. Alléluia. Merci. Prie avec moi, Père Céleste. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Elle est vivante. Elle est efficace. Au nom de Jésus, je prends une décision aujourd'hui de boire régulièrement ta parole. Comme une biche qui soupire auprès des courants d'eau, je soupire après toi. Tes paroles sont éternelles, pour toujours établies dans les cieux. Et tes paroles peuvent me délivrer de ma misère et vivifier ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Donc, avec tous les cœurs bien sensibles aujourd'hui, vous savez que j'ai pris un engagement devant le Seigneur de ne jamais laisser passer un dimanche matin sans donner l'occasion aux gens d'accepter le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc, je vous demande tout simplement de sonder votre cœur. C'est bien beau de parler de recevoir la parole de Dieu et de laisser la parole vous transformer. Mais savez-vous qu'il y a quand même une première étape à faire? Et je vous pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un ici que, si vous êtes honnête avec vous-même et honnête avec Dieu, vous n'avez pas aujourd'hui l'assurance d'avoir reçu la vie éternelle? Si vous quittez l'église aujourd'hui et votre cœur arrête de battre et vous tombez mort là, est-ce que vous savez sans aucune doute que vous irez au ciel pour passer l'éternité avec Jésus? Sinon, j'ai une bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas mériter votre salut, vous ne pouvez pas gagner le ciel. Vous pouvez tout simplement recevoir la vie éternelle comme un don gratuit. Et la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, le Seigneur c'est un maître, c'est-à-dire que tu vas vivre pour lui. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et Jésus a dit que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Ce matin, je vais juste donner la chance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je vais compter à trois, taper ma main. Et si vous êtes là, vous avez besoin de donner votre vie à Jésus et vous voulez partir d'ici avec cette assurance, vous levez la main haut dans l'air sans être gêné. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Juste levez la main. Vous avez besoin de donner votre vie à Jésus ce matin. Quelqu'un? N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Au Seigneur, je prie encore une fois ce matin pour chaque homme et chaque femme. Si jamais, Seigneur, il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore pris cette décision de te confier leur vie et de te confesser comme Sauveur et Seigneur, je prie, Seigneur, qu'avant le coucher du soleil aujourd'hui, qu'ils vont prendre cette décision. Et Seigneur, nous te remercions que l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu vont continuer à agir en nous parce que nous croyons et nous avons mélangé notre foi avec ce que nous entendons. Et nous allons agir en conséquence. Seigneur, merci que ta parole est vivante. Merci, Seigneur, que le tohu-bohu, le chaos de notre vie va se transformer en ordre. Et nous allons porter du fruit, Seigneur, comme un jardin d'Éden. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.